Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre émission dédiée à l'actualité des sports auto américains sur US Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, hello à tous.
Et Adrien, salut Adrien.
Bonjour Geoffroy, bonjour Lilian et bonjour tout le monde.
Alors, au programme cette semaine, on va revenir sur l'IndyCar et plus particulièrement sur la course de Romain Grosjean. On parlera d'IMSA avec les 12 heures de Sebring qui arrivent très très vite. On fera un petit point Trackhouse Racing en MotoGP. Et sur la partie NASCAR, on a énormément de choses. Ça ira du nouveau diffuseur à la présentation de la course de Bristol, en passant par les tests Goodyear. Les pénalités, les pronostics, voilà, il y a plein de petites choses, donc voilà, restez avec nous jusqu'au bout. Alors messieurs, l'IndyCar était du côté de Saint-Pete pour l'ouverture de la saison le week-end dernier, on en a déjà parlé dans Splash & Go, et Adrien, je sais que tu voulais qu'on revienne un petit peu sur la course de Romain Grosjean qui effectuait sa première avec la Juncos depuis son transfert de la Andretti, à l'issue de la saison 2023.
Ouais, bon, il a fallu retenir un petit peu Arnaud mardi pour pas qu'il en parle trop, mais malheureusement il est pas là aujourd'hui, mais ouais, je pense que ça mérite qu'on y passe un peu plus de temps, parce que bah il l'avait dit lui-même quand on l'a interviewé la semaine précédente, il s'attendait pas à jouer la pole. On l'a quand même retrouvé dans un fast six. Je sais pas, mais moi j'étais quand même surpris.
Oui, on est d'accord. Oui, bah oui, clairement.
Quand il nous a dit je ferai pas la pole, bon, je m'étais dit s'il est dans les 10, ça sera bien quoi. Mais bon, dans le Fat Six, c'est plutôt.
C'est une belle surprise.
Ou bien quoi. Par contre, après, pendant la course, ouais, ça a été quand même un peu plus dur quoi. Alors moi, j'ai pas vu le départ.
Bah, il fait moins 3 au premier virage.
Ouais, j'ai raté les 5 premiers tours, je crois. Vas-y, Lilian, je t'ai coupé.
Pardon. Non, bah oui, non, c'est, j'allais dire comme Geoffroy, oui, il se fait déborder par un pilote, donc oui, c'est ça. Il, à la fin du premier virage, il est déjà 8e, ouais.
Et après, par contre, ouais, c'était. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. On a vu que sur les pit stops, bah, il perdait des places à chaque fois. Et. Bah, c'est un peu comme s'il donnait l'impression un petit peu de s'énerver, et puis à la fin, bah, il a fait. Il s'est peut-être un peu trop énervé, puis il a fait la petite boulette parce qu'il arrivait peut-être pas à passer, ou je sais pas trop, mais. C'est dommage parce que cette première course de la saison, il a fini pas. Les qualifs étaient plutôt bonnes, et malheureusement en course, ça a pas concrétisé quoi. C'est dommage.
Oui, oui, ça va pas concrétiser. Ouais. Il s'accroche un peu après la mi-course.
Il prend une pénalité en plus.
C'est ça, il prend une pénalité. Mm. Et du coup, bah, ça flingue totalement sa course. Hein. Il s'accroche au 60. Enfin, la pénalité tombe au 73e tour pour contact évitable, comme aime à l'appeler l'IndyCar.
Avec Linus Lundqvist.
Et puis voilà quoi.
Après, je sais pas si eux, leur bilan en interne, il est plutôt bon ou pas. La voiture était quand même dans le coup. Enfin, il était pas complètement largué et a dégringolé au classement. Il tenait quand même sa position, même s'il s'est fait déborder tout de suite par plusieurs pilotes et qu'il a perdu 2-3 places. Après, il a réussi à tenir son rang. Et finalement, c'est plus les ravitaux où il a perdu un peu de place. Mais après, c'était pas catastrophique. Donc, il y a sûrement des choses qui sont à améliorer. Mais je suis pas persuadé pour autant que cette première course était négative. J'espère pour eux qu'ils arriveront à en apprendre des choses. Et que ça sera un peu mieux pour la prochaine, quoi. Après, toi, je sais pas ce que t'en as pensé, Lilian. Mais. C'était pas non plus tout négatif, quoi.
Non, de toute façon, globalement, t'as bien résumé sa première course. Voilà, ouais, les qualifs, c'était hyper encourageant. Malheureusement, en course, il n'a fait que perdre des positions. On ne l'a jamais vu dépasser.
C'est vrai.
Que ce soit sur la piste, il a fait que perdre des places. Dans les stands, il a fait que perdre des positions. Et puis après, malheureusement, ouais, ça s'est soldé. Bah, tu l'as dit, accrochage, pénalité, et après, souci mécanique, abandon. Voilà, après, il faut lui laisser aussi le temps de se roder à sa nouvelle équipe. Puis voilà,
Ça joue pas dans
faut
la même
laisser un.
cour non plus qu'Andretti, quoi, donc
Il n'a pas le même matériel non plus, il faut aussi relativiser. Il l'a aussi dit lors de l'interview. Hein. Voilà, il faut qu'il se laisse un peu de temps. Après, voilà, il a su faire des belles choses quand il était chez Delcoy. Il a su faire des belles choses chez Andretti. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas avec Juncos. Mais voilà.
ouais, c'est pendant la course, là, je crois que c'est Renaud Derlo. Il disait que comparé au rythme de Newgarden, il estimait qu'il lui manquait à peu près une seconde dans la voiture en fait. Que pour arriver à tenir le rythme du leader en rythme de course, il lui manquait à peu près une seconde. Donc moi j'avais pas les chronos, je sais pas trop,
Bah,
mais.
ce qui est énorme en fait, hein, une
Une
seconde.
seconde sur un tour qui fait 60 secondes, ça commence à piquer.
Ouais, alors c'est peut-être énorme, mais tu te dis il était pas à 25e quoi. Il était 10, 12, je sais plus exactement, mais c'est pas, il est pas non plus dernier quoi. Donc Newgarden était sur une autre planète, mais c'est pas non plus, y a pas de quoi crier au scandale quoi. Alors c'est sûr quand tu veux gagner etc. Une seconde commence à chiffrer un peu, mais ça peut paraître loin tout en paraissant comparé au plateau, quand tu le ramènes à la performance globale du plateau, c'était plutôt pas mal en fait. Parce qu'il y en a beaucoup à qui il manquait plus que ça, quoi.
Mais il abandonne, donc il termine 24e sur 27.
Mais par contre, voilà, exactement. Et bon, ça par contre, terminer sur un abandon, c'est. Bon, c'est peut-être un peu dommage, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais.
Ah bah pour la
Je me rappelle
confiance, ouais, ne
plus.
pas finir, c'est pas. Je pense qu'il avait un problème d'embrayage. Il n'a pas parlé d'embrayage en une.
Je me rappelle plus.
Non, je me rappelle pas non plus de ça, mais oui, c'est un problème mécanique qui l'écarte de.
Il me semble qu'il disait, genre, il était en sixième et la voiture passait en neutre. Il me semble qu'il parlait de ça.
J'ai pas souvenir. Je vais dire une connerie, donc je sais pas.
Ouais, je sais pas non plus. Donc, mais si tu le dis, oui, mais en tout cas, c'est un problème mécanique, ça, c'est une certitude.
C'est sûr, ouais.
Donc voilà, début intéressant pour Romain Grosjean malgré tout chez Juncos. Quelques petits soucis. Et puis bah, on verra bien. Là, de toute façon, cette semaine, il est toujours en Floride, mais du côté de Sebring pour les 12 heures. On verra ensuite du côté de la Californie, du Thermal Club, ce que ça donne, même si jugé sur une course en championnat. Ce sera peut-être pas le plus judicieux parce que bah, course en championnat, ça m'étonnerait que ça change grand-chose déjà au niveau des forces en présence. Et puis, même si on court pour 1 million de dollars, je suis pas sûr que ce soit représentatif de ce qui se passe le reste de la saison.
Ça lui permettra de s'entraîner grandeur nature. Il
C'est
faut le
ça.
voir comme ça, parce que bon, clairement, oui, le million, il n'ira pas le chercher, hein. À moins d'un cataclysme, mais si ça peut permettre de régler des choses pour la course suivante, qui doit être Long Beach, j'ai envie de dire.
Ouais, ce serait bien que ça se règle pour lui, mais.
Est-ce que c'est Long Beach? J'ai un doute. Je ne sais plus si c'est Long Beach ou si c'est.
Barbeur.
Si ou si c'est Barber, ouais, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude que c'est. Ouais, non, c'est Long Beach avant, c'est ça. Et Barber et après. Le 21 avril.
C'est ça, il y aura un mois de pause entre la All-Star et Barber. Et Long Beach.
All-Star.
Bah oui, c'est une All-Star, enfin, c'est une course en championnat, t'appelles ça comme tu veux, c'est une course au million, c'est. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Romain Grosjean, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à évoquer sur cette course de Saint-Pete? Que ce soit pour un pilote qu'on aurait par exemple oublié dans Splash and Go ou autre? Non. Ok.
Je pense qu'on avait déjà bien débriefé au final de la course hors de Splash and Go.
C'est vrai. Alors, messieurs, on va rester en Floride. On va juste changer de catégorie avec l'IMSA qui est du côté de Sebring, je vais y arriver, pour les 12 heures du même nom. Et encore une fois, Adrien, un plateau assez complet avec 58 équipages engagés. Dans le détail, il y en a 11 en GTP, il y en a 13 en P2, il y en a 12 en GT Pro. Et il y en a 22 en GTD, ce qui promet quelques embouteillages.
Ouais, bah, on avait eu une belle course l'année dernière. Je pense que là, ça promet encore avec des nouveaux arrivants. Donc, ouais, ça va être sympa, je l'espère. Mais pour l'instant, on ne sait pas. De Daytona, il y a quand même quelques questions qui subsistent. Puisque on avait vu Acura complètement transparent en GTP et en fait ils avaient juste une enclume dans l'auto qui, je sais pas trop pourquoi, était la seule à être décrochée. Donc là on va voir, ils ont été remis à un poids dit normal, puisque la plus lourde des voitures sera la Cadillac à 1060 kg. Et la plus légère sera la BMW à 1030, et après la Cura est revenue à 1055 kg. Donc elles se tiennent toutes en 6 kg, sauf la BM qui est vraiment plus légère que toutes les autres. D'un point de vue BOP, sur le poids, ça a l'air à peu près équivalente, et au niveau de la puissance moteur et de l'énergie attribuée. Bon, c'est pareil, ça se tient en 20 kW à peu près pour tout le monde, et en mégajoules. On est aussi de l'ordre de 20 mégajoules par relais par voiture, donc ça fait pas beaucoup, et ça devrait être plutôt serré. Donc après en GTP on verra un petit peu ce que ça va donner, mais en effet quand on regarde l'entry list, difficile de dire qui sera le vainqueur à la fin de ces 12 heures. Ça reste quand même très 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 serré pour l'instant, quoi. Donc il y a beaucoup plus de Porsche. On a vu qu'en début de saison, Porsche était quand même plutôt dominateur, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc
est-ce qu'ils vont continuer sur leur lancée? C'est la question qu'on peut se poser aussi, clairement.
Ouais, bah c'est ce qu'on disait la semaine dernière. S'ils continuent sur leur lancée, ça serait logique, entre guillemets. Après, si leur objectif c'est Le Mans, que c'est dans leur intérêt à continuer à tout gagner, quoi. Mmh. Si réellement ils sont capables de tout gagner. Je ne sais pas, moi pour la beauté du sport, j'aimerais qu'ils continuent de rouler au max de ce qu'ils savent faire, et voilà quoi. Et puis il y a Yadine que pourra, mais
bon. Alors, dans le détail, ouais. On a 4 Porsche sur les 11 du GTP, donc ça fait plus d'un tiers du peloton. Il y en a 2 chez Penske, il y en a une chez JTC, et il y en a une chez Proton Compétition Mustang Sampling.
Ouais, donc la Proton, ça doit être la noire. Du coup, celle qui était à Daytona, celle où il y avait Button, je pense.
Alors attends, je vais comparer avec le numéro, donc c'est la numéro 5. Oui, c'est ça, elle est noire et dorée.
Elle a un
avec
numéro...
Julien Andlauer chez les Français et Alessio Picariello chez les francophones, puisqu'il est belge.
D'accord, je connais pas... J'avais jamais entendu ce nom-là.
Et Gian Maria Bruni pour le troisième pilote qui est platine.
Donc c'est Alessio Picariello qui a pris la place de Jenson Button, en fait, ok. Donc bon, c'est Porsche, voilà, après c'est solide. Cette voiture-là, par contre, était quand même assez loin de mémoire. On verra ce que ça va donner. Ils ont résolu quand même une grande partie de leurs soucis. Donc, pour moi, c'est... Enfin, j'ai vraiment hâte de voir la course. Parce que entre Cadillac, qui a l'air plus que performant quand on voit ce qui s'est passé à Daytona. Acura qui a été remis dans le jeu. Porsche qui semble indéboulonnable en ce début de saison. BM qui est toujours en observation, prêt à bondir, bah, comme ils ont fait l'année dernière en fait. Là il y a Lamborghini qui arrive. Lamborghini ça a l'air un peu plus compliqué. Je pense que ce qu'il faut c'est accumuler des bornes. Sebring, on sait que c'est l'enfer pour la mécanique, donc il faut que l'auto arrive au bout. Et je pense que s'ils arrivent à amener l'auto au bout, déjà, ça sera très bien pour eux, peu importe la position. Et plus ils arriveront à faire des kilomètres, plus ils apprendront pour Le Mans, etc. Donc j'espère vraiment qu'ils arriveront à faire un maximum de tours. Et l'équipage, c'est Matteo Chiarelli, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean, donc sur la 63.
C'est ça, de Chiron Lynx.
Ouais. Donc cette voiture, va vraiment falloir qu'elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour enquiller les tours, quoi, quitte à des fois à passer un peu de temps dans les stands s'il faut jouer de la boulonneuse ou de la disqueuse, mais il va falloir. Après, bon, en proto, on n'a que les Oreca, je crois, sauf une Olivier. Et puis en GT3 ou les GT3 pareil. L'Oreca ça devrait être, je pense qu'en LMP2 ça va être relativement disputé parce que ils ont quasiment tous la même voiture, c'est voiture connue des équipes rodées. Il y a quand même des gros équipages, des équipes connues et reconnues qui connaissent leur matériel, donc je pense que ça va être assez disputé pour les LMP2. Et on n'a plus les LMP3, je crois que l'année dernière il y avait encore le LMP3. Et moi je trouve que c'est pas plus mal.
Ouais, donc voilà. Après, au niveau des Français, on n'en a pas parlé, mais il y a Sébastien Bourdais dans la une Cadillac, comme d'hab.
Ouais. Donc Julien Andlauer dans la 5, Fred Maco dans la 6. Après.
Romain Grosjean dans la 63, sans l'a dit. Et
Ouais.
après, en proto, je suis en train de regarder rapidement, enfin en proto en P2. Il y a Lilou Wadou du Cellier dans la 88. Il y a Paul Louchatin dans la 99 de chez AO Racing. Donc voilà, deux Français qui seront présents. Après, avec des équipages un peu plus disparates, hein, quand même. Hein. Il y a du bronze, du gold et du silver un peu partout.
Bah en P2 ouais c'est. Je crois que maintenant t'es obligé d'avoir un bronze dans la voiture je crois si je dis pas d'annerie donc
Bah, il y a un bronze dans chaque équipage, ouais.
C'est la performance du bronze qui fera la performance de l'équipage en fait de la voiture. À la méca au souci mécanique près quoi. Donc c'est.
Après, il faudrait peut-être qu'on avance un petit peu. Je suis en train de regarder. On n'a pas d'autres pilotes connus ici en France sur la catégorie GT des pros. Il y a Franck Pereira dans la 19 de chez Iron Lynx. Et
Après des
c'est
pilotes
tout.
connus français, bon des connus il y en a, mais pas forcément
Ouais, pas forcément
français.
français, c'est ça.
Tatatalata,
T'as James Hinchcliffe dans la 9 de chez
Rosgen,
Pfaff. T'as Kyle Kirkwood et Jack
Chiavoni,
Hawksworth dans la
Kelly,
14 de chez
ouais,
Vasseur
après,
Sullivan.
Niche Prio. C'est vrai que les Français ils ont tous migré en.
Et il y a
Ils ont...
Rockenfeller dans la Ford Multimatic Motorsports dans la 64. Joey dans la 65.
Tac tac tac, Andy Lally, Spencer Pumpelly, quoi, il roule encore.
Spencer Pumpelly, ça fait quelques années qu'on le voit.
Ouais. Oh, je suis étonné. Il y a Catherine Legg aussi qui roule dans la. En GTD sur une Acura. C'est vrai.
Donc voilà, ça
Sarah
devrait.
Bailey. Larry Rodames. Ouais, bon, en GT, je pense que ça va être assez ouvert. Hein, en GT3, on a vu que c'était. Que c'est finalement les ennuis mécaniques qui ont un peu trié les concurrents, en fait. Hein.
Donc,
Donc. Comme c'est un circuit très dur pour la mécanique, ben, on verra bien quoi. Hein. Est-ce que Pratt et Miller va faire de la mécanique sur sa Corvette une deuxième fois de suite dans l'année? On verra bien.
Ah, ça, tu l'as encore en travers.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça l'avait marqué.
Ah, ça l'a vexé, ça. Il est vexé ah, comme un pou.
Ça m'a vexé. D'autant plus qu'ils ont fait la même au Qatar. Ils ont fait de la mécanique sur une Corvette.
Oui, mais arrête. Arrête ta jalousie mal placée.
Non, mais...
Si,
ils nous avaient habitués à mieux, je suis désolé. Donc, Non, on verra. C'est, enfin, moi, j'ai hâte de voir la course avec tous les drapeaux jaunes, etc. Là, j'espère juste que ça va pas se finir comme l'année dernière, là, où ça a un peu fini en autre boudin, où ils s'étaient tous emplafonnés dans le 3 en essayant de passer en 3 de fond.
Ouais, bon, au début de la nuit, ouais.
Ouais. Donc, bon, on verra.
Et mais, départ aux alentours de 16h, du coup.
Exactement.
Et ça, ouais, j'ai 9h40 en local. Donc,
ah bah, ça fait que 9 et... Ouais, ça fait 15h40. Ouais.
Oui, mais après, bon, ça, je pense que ça doit être lors de la prise d'antenne. Donc après, je pense que oui, c'est ça, c'est vers 16h, je pense, le drapeau
bah
vert.
Bah non, c'est vers 15h.
Il y a 5 ou il y a 6 en ce moment?
Bah, il y a 5 en ce moment. C'est vers 15h.
Bon, bah, c'est 15 alors.
15h, 3h du mat. À une vache près. Donc voilà pour cette course de Sebring. S'il y a du monde qui veut la suivre, sur les réseaux sociaux, bah, n'hésitez pas. Et sur les différentes plateformes, n'hésitez pas à nous dire que vous allez la suivre et à nous rejoindre sur le Discord. Je pense qu'il y aura du monde pour suivre ces
deux. Ça reste une épreuve phare.
Exactement. Surtout de nuit, et il les faut.
Là, je crois qu'il y a eu les premiers essais, mais j'ai pas forcément de classement. Donc,
C'est pas grave.
On va chercher un peu, ça pourra se trouver.
On va enchaîner, Adrien, si tu le veux bien. On va traverser l'Atlantique, on va même traverser l'Europe. On va aller du côté du Qatar. Il y avait la Trackhouse qui faisait ses grands débuts en MotoGP à l'occasion de la manche d'ouverture de la saison 2024. Et la Trackhouse, c'est un petit peu l'attraction, on est d'accord.
L'attraction. Oui, on en a parlé un petit peu, ça a fait un petit peu de bruit avec le retour de David Ebrivio, donc en tant que team manager donc d'une écurie de moto. Il avait quitté Suzuki mais quand ils avaient quitté le championnat il y a 2 ans, je crois maintenant. Puis là, le retour de Trackhouse. Donc, première course, je vais dire un peu mitigée quand même, même si ils ont quand même fait un résultat plutôt correct, puisqu'en sprint, alors déjà en qualif, il y a Raúl Fernández qui arrive à rentrer en Q2 et du coup à jouer pour la pole, pour les 12 premières places de la grille. Bon, il fait le 12e temps quand même, mais il rentre dans les 12. Hein,
il y est, quoi.
Il y est, exactement. Juan Zarco ou Fabio Quartararo auraient aimé y être, par exemple. Et après en course sprint, bon, par contre, ça s'est un petit peu moins bien passé, puisque Raúl Fernández fait 14 et Marco Oliveira fait 13, et je crois qu'ils ont fait le même résultat en course principale. Alors, Oliveira fait 15, par contre Raúl Fernández abandonne. Donc bon, en course, course sprint ça a été, course longue, il en manque encore un peu, mais bon, l'Aprilia, on sait que l'année dernière elle était plutôt performante. Là, cette année, quand on regarde le résultat, les Aprilia officiels sont sur le top 10 en course longue, et Espargaro fait quand même 3ème sur la course sprint, donc normalement c'est une moto qui doit marcher. Après, leur problème l'année dernière, c'est la fiabilité. C'est la seule marque qui connaissait souvent des abandons pour problèmes mécaniques. Ça, il faudra voir pendant la saison si ça s'améliore ou pas. Et si on doit parler des Frenchies rapidement, ils ont fait 11 et 12 avec Fabio Quartararo devant Juan Zarco.
C'est moche. C'est moche. À une époque,
C'est moche.
c'était un et deux.
Ouais, mais bon, ils prennent quand même des points. Je crois que Fabio atomise son adversaire, qui est 16e hors des points. Lui, il prend 5 points. Et Zarco, il atomise aussi son adversaire, enfin son équipier. Nakagami, qui est 19e. Et il est premier Honda. Donc, puisqu'on le rappelle, Marc Marquez n'est plus sur une Honda. Il est passé chez les Rouges.
Exactement. Allez, on bascule sur la NASCAR, messieurs. C'est tout bon pour vous. Lilian, je ne sais pas si tu te souviens, mais à Phoenix, il y avait quand même une nouveauté qui était très attendue. C'était le nouveau diffuseur, on est d'accord, c'était attendu, mais ça a fait flop. C'est ce que tu vas me dire.
Penses-tu? J'en ai assez parlé.
Ah ben...
On l'avait annoncé. Bon, on nous avait vendu...
Du rêve.
Du rêve, oui, c'est ça. Après des tests soi-disant concluants. Dixit Arnaud, pour une course de Phoenix, c'était pas si mal. Oui, pour une course qui reste quand même la finale des playoffs, qui va couronner le champion dans quelques mois, ça reste toujours une course relativement ennuyeuse. Je suis désolé.
Non, t'as pas à être désolé. Même
avec un nouveau diffuseur, ouais, le spectacle, malheureusement, ça reste très compliqué de doubler hors restart. Alors oui, quand après t'as une voiture très bien réglée et bien jouée au pilote de la Gibbs, hein. Mais sinon, ouais, c'est très très compliqué de dépasser. Et là, tu nous avais trouvé donc sur un site américain justement où on voyait un petit peu un plan de coupe du diffuseur donc utilisé en 2023 et qui a été utilisé et qui va être utilisé cette année sur Short Track hors Dover et Bristol, c'est ça?
Ouais.
Bon, oui, alors oui, sur le dessin, on voit clairement une différence, hein, c'est clair.
Mais ça s'est pas forcément traduit sur la piste.
Ça s'est pas traduit sur la piste et puis de toute manière plusieurs pilotes, Denny Hamlin le premier, continuent à militer pour avoir plus de puissance moteur. Et pour lui, c'est la clé.
Et Adrien va te dire, oui, mais c'est pas en changeant juste un tout petit peu le diffuseur que tout va changer.
Ah non, puisqu'une voiture, c'est tout un tas de composants. Allant une suspension, des pneus, un moteur, une aéro et tout. Et nous faire croire que juste en changeant une pièce de la bagnole, la voiture... Elle va être révolutionnée. Bah oui, mais non, quoi. Enfin, on peut pas s'attendre à autre chose, en fait, que ça marche pas, quoi. C'est un patch pour essayer de... Pour essayer de... T'es la casse, entre guillemets, mais... Les mecs, c'est pas en leur changeant le diffuseur que demain... là où ils passaient pas à 2 de front, ils vont pouvoir passer à 5 de front et essayer de se doubler sur 3 tours, quoi, en fait. Moi, ça me semble complètement surréaliste, quoi.
Oui, c'est pas faux.
Ils ont essayé, mais...
Ils ont eu des problèmes.
Et là, maintenant, bon, on voit bien que comme le problème ne se résout pas, on commence à parler de changer la date de la finale. Enfin, le lieu de la finale, pardon.
Oui, la saison prochaine.
Pour 2025, où j'en avais parlé brièvement. Flashingo mardi.
Ouais.
Ça commence à être évoqué.
Ouais.
Ça commence à être évoqué qu'on reparte à Homestead parce que là on sait que le spectacle sera au rendez-vous.
Effectivement, on verra bien. Après, les pilotes réclament plus de puissance. Les fans te disent que oui, si on met plus de puissance, ça va résoudre le problème. Mais le souci, c'est que la NASCAR, pour attirer de nouveaux constructeurs, ne veut pas augmenter la puissance parce que, a priori, augmenter la puissance, ça a un coût de développement important au niveau des moteurs. Et aujourd'hui, on veut avoir des coûts assez contenus.
C'était Kyle Larson qui était l'invité de l'émission de Dale Earnhardt Jr. cette semaine, qui disait que pour lui, il n'y avait aucun problème à prendre sa voiture avec laquelle il a gagné, c'est à Las Vegas hein, qu'il a gagné, et tu pouvais pousser le moteur à 1000 chevaux sans problème. C'est ce qu'il dit lui-même directement en interview. Et Denny Hamlin, dans son podcast, excuse-moi, je te laisse parler après, Adrien, de cette semaine, dit que on lui demande pourquoi la NASCAR ne veut pas monter la puissance moteur. Il répond très honnêtement qu'il ne sait pas et qu'il faut demander à Jim France.
Mais quand Kyle Larson dit que tu peux mettre 1000 chevaux, mais oui, mais pour faire quoi en fait derrière? Pour refaire une course? La même? Parce que, enfin, si c'est pour faire un 400 mètres départ arrêté, tu peux même en mettre 1500 des chevaux si tu veux. Mais si c'est pour faire une course de 4 heures, bah peut-être que ça va tenir. Mais aujourd'hui, les moteurs, ils tiennent combien de temps en fait? Un moteur fait combien de courses aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont un moteur par course? Est-ce qu'ils ont un moteur par week-end? Est-ce qu'ils ont autant de pièces qu'ils veulent si le mec il fait un moteur à chaque session? Alors il n'y a pas d'essai, donc ça résout le problème. Mais s'ils font un moteur en qualif ou ils ont un moteur qui te sort, il est trié sur le volet avec toutes les pièces, avec les jeux opti et tout, ce moteur-là va faire peut-être 10 tours et au bout de 10 tours il est mort parce que le truc il est affûté comme jamais. Et après, quand je dis qu'il est mort, c'est qu'il perd sa perfo. Mais par contre, ils ont un moteur course après, qui est plus long, etc. Et que le moteur, il fait la course et après, c'est poubelle. Mettre des chevaux, oui, on sait faire. Enfin, quand je dis on sait faire, c'est les constructeurs savent faire. Mais après, c'est... Quelles sont les contraintes qui sont appliquées au moteur? C'est pour faire combien de courses?
T'as 13 moteurs sur la saison.
Donc ça veut dire qu'un moteur fait...
En moyenne, 3 courses.
En moyenne, 2 à 3 courses.
2 à 3 courses, pas plus, ouais.
Donc quand tu supposes que tu prends, par le plus grand des hasards, un choc à 200 km/h avec le muret en béton, on va dire, 3 fois par là dans la saison, il suffit que manque de bol, ça soit un moteur tout neuf. Enfin, ton moteur qui devait faire 2 courses, il en fait même pas une.
Ouais, ouais. Et donc après, derrière, il faut en faire 4.
Donc derrière, ça veut dire qu'il faut en faire 4. Donc, je suis d'accord, il saurait mettre des chevaux dans un moteur. Ça, je suis d'accord. Après, Larson, ça serait le premier à râler si entre à la première course et la quatrième course, son moteur, il fait 50 chevaux de moins. Ça serait le premier à râler parce que son moteur, il fait pas les chevaux, quoi. Donc, c'est pour ça que quand ils disent que ça a un coût, moi, je le comprends tout à fait. Après, je sais pas le chiffrer, etc. Mais ça a un coût pour avoir une performance constante.
Après, c'est un coup, j'entends. Comme disait Geoffroy, ça peut avoir des moteurs trop puissants, ça peut freiner la venue de...
De Honda.
Entre autres. Mais jusqu'à présent, ça fait combien d'années qu'on est à 3 constructeurs?
Depuis le départ de Dodge en 2012.
Voilà. Donc, alors oui, on Dodge, on a plus ou moins. Il y a eu des rumeurs à certains moments, à certaines saisons. Bon, voilà, jusqu'à présent, là, c'est le calme plat à date.
Si à terme, on veut le descendre en cylindré, on va mettre des chevaux, c'est compliqué aussi.
Ouais, la NASCAR sans un V8, je sais pas.
pour moi, ils finiront par passer au V6. Hein.
Je sais pas non plus. Mais je suis d'accord avec toi, la NASCAR sans le V8, ça chante quand même plutôt bien, quoi, et c'est plutôt sympa, quoi. Mais
C'est sûr. Non, mais bon, après, on verra bien, c'est dans l'air du temps de réduire la cylindrée.
Et après, voilà, c'est censé être un mi-fin. Ouais. Si c'est plus la motorisation de base, les États-Unis partiront sur un V6, hein, et ça permettra aussi de réduire les coûts.
Ou pas? J'en sais rien. Parce que redévelopper un moteur et tout, c'est pas non plus gratos. Hein, donc,
c'est pas anodin, oui.
Tu réduis les coûts à l'exploitation, mais pour avoir un moteur qui tourne, il faut dépenser combien, en fait? La notion de réduction de coûts, elle est quand même un petit peu subjective en fonction de quelle fenêtre tu regardes, quoi. Enfin, il faut peut-être rester un certain temps pour vraiment amortir le coût et garder le matériel un certain temps, quoi. Et ça, On n'a jamais trop su combien ça coûtait, vu qu'en plus le sport auto coûte de plus en plus cher. Dans quelle grandeur t'arrives à quantifier que t'as gagné X millions, ça reste hyper compliqué quoi. Mais je suis d'accord par contre que s'ils arrivent à augmenter les chevaux, dès l'instant où tu vas solliciter la finesse du pilote pour pas rester pied dedans tout le temps et essayer de faire preuve de son talent, peut-être que tu auras des courses où les mecs vont être amenés à faire plus d'erreurs et du coup ça créera des opportunités de dépassement. Je pense que c'est ça que Denny Hamlin il essaie de faire revenir en fait.
Oui, peut-être. À voir. C'est encore un peu tôt pour que la NASCAR communique, hein. En général, c'est plus fin du printemps, début de l'été qu'on commence à avoir des grandes directions pour la saison d'après. Mais puis là, il y a eu qu'une seule course.
À Bristol, ce sera pas ce package-là.
C'est ça. On verra bien. On verra bien.
Mais après, c'est toujours les mêmes qui râlent, non? Pour avoir plus de chevaux, plus de trucs. Parce qu'il me semble que l'année dernière, c'était déjà Hamlin qui râlait pour avoir des
C'était
chevaux.
déjà Ameline, ouais, qui
Mais...
militait pour ça, oui.
Parce que Hamlin a une émission entre deux tunnels de pub. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu l'année dernière, c'est qu'il y avait un podcast, c'était Blenny et la joie. Pas le souvenir de les avoir entendus réclamer de la puissance moteur. Mais oui, enfin, c'est plus facile de râler et de se faire entendre quand t'as un podcast que quand tu n'en as pas. C'est un peu une lapalissade de ce que je
Et
dis, mais. Mais oui,
là,
vas-y.
je vais faire appel à plus à vos connaissances. Mais par le passé, Hamlin, il a connu des caisses avec beaucoup plus de chevaux qu'aujourd'hui.
Oh bah il a connu l'époque à 900.
Oui, on était à
Hein.
900.
À fin des années 2000, c'était... Ouais, c'est ça, 900 encore.
Peut-être pour ça qu'il pleure aussi pour avoir des chevaux, pour essayer de retrouver quelque chose qu'il connaît beaucoup mieux que les autres, et peut-être essayer d'en tirer un avantage quelque part.
Peut-être.
Peut-être. Quand tu changes une réglementation, t'as des pilotes qui arrivent à s'y habituer et d'autres beaucoup moins. Donc peut-être que les voitures où il y a moins de chevaux et où peut-être faut faire la différence ailleurs que sur la gestion de la pédale, bah lui il a peut-être des difficultés à le faire. Et donc il prêche pour sa paroisse entre guillemets quoi.
Ah bah bien sûr,
Il
bien
aurait
sûr.
tort, il aurait tort de s'en priver, hein, cela
Il aurait
dit.
tort de le faire, on est
C'est
d'accord.
son podcast, il dit ce qu'il veut, hein.
C'est ça.
Ouais oui, on est d'accord. Là-dessus, il a entièrement raison.
Donc voilà un petit peu. Si on revient un petit peu plus en détail sur la course de Phoenix en Cup, messieurs, on a deux, trois nouvelles amitiés qui se sont créées, va-t-on dire? Avec
Oh.
d'un côté Joey Logano et John Hunter Nemechek et de l'autre Eric Jones et Chase Briscoe, Lilian.
Bah écoute, ça fait partie du jeu. Chaque année, on a son lot de. Oui, comme tu dis, hein, d'amourettes qui voient le jour. Bon, bah voilà, là il y en a deux qu'il faudra suivre lors des prochaines courses. Est-ce qu'il y aura une fuite, j'ai envie de dire?
Peut-être.
J'y crois pas plus que ça, à mon sens. Après, dites-moi, hein, ce que vous en pensez, mais...
Moi, ce que vous en pensez?
Bah, dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Vous?
Ah, il fallait que je la fasse, elle était trop facile.
Ouais, effectivement, même. Non, je pense
Eh.
que c'est aussi sur le coup de l'émotion pour Joey Logano, qui est dans une passe un petit peu
Peu dans la
compliquée
sauce, quoi.
au niveau du classement général.
Un petit peu.
Légère. Mais
J'ai du mal à comprendre comment, au bout à trois courses sur.
4.
Ouais, quatre courses sur. Allez, j'ai pas envie de faire le calcul, 24. de saison régulière.
26, mais c'est pas grave.
Voilà, 26, bon. On va y arriver.
Les maths, c'est pas, les maths, c'est pas son fort.
C'est pas aujourd'hui les chiffres.
Allez, on passe aux lettres.
À 4, 4 courses sur 28, 26, putain, je vais y arriver. Comment on peut se dire que, en fait, il a déjà perdu, quoi. Entre guillemets. Ouais, ok, il est pas bien. Mais bon, la saison, elle part pas de la meilleure des manières, mais. Soit en fait il sait qu'il aura pas les moyens de lutter et que tout point de retard qu'il prend va être très très dur à remonter. Mais j'ai du mal à comprendre cet aspect là. Pourquoi il serait après 4 courses presque déjà éliminé en fait?
Bah, parce qu'après 4 courses il est dernier. Aujourd'hui.
Ouais.
Il est 30e du classement, il est à 100 points de Ryan Blaney, qui est son coéquipier.
À matériel égal, ouais, voilà, c'est ça.
À matériel égal. Bah voilà, quoi. Et puis
tu parles de Joey Logano quand même. Là, oui. Il a quand même des résultats très en deçà, à des pairs ou pas. Hein. Là, je ne rentre pas dans ces statistiques fumantes, mais.
Mais
c'est quand même très inhabituel, quoi.
Ouais, mais c'est Joey Logano.
Et
c'est,
là,
un double c'est un double champion de NASCAR, il gagnait, il sait faire. Donc,
et en année paire.
Mais c'est justement pour ça qu'on regarde de près ce qu'il fait. Et là, en fait, et je regardais ses résultats, bah, à part Las Vegas où il fait 9e, c'est 3 abandons. Daytona et Atlanta, vu les résultats, c'est que ça a dû être pris dans des accidents. Ah, c'est ça, ouais, là c'est 28e à.
Oui, c'est un accident à Daytona.
Daytona, c'est 32. Et Phoenix, bah oui, ça c'était accident aussi. Et ça termine 34.
Et non, il va au bout sur Atlanta, mais il est impliqué dans des accidents.
Ouais, mais enfin, gagner des courses, il sait faire. Moi, je me refuse à l'enterrer tout de suite en lui laissant. En lui laissant la chance de gagner, je vais dire, mais moi j'influe rien sur son résultat, mais je ne doute pas qu'il soit en mesure de gagner une course d'ici cet été, quoi. Enfin, c'est tout, il en est complètement capable.
On n'en doute pas non plus, on ne l'enterre pas, c'est un peu lui qui s'enterre. Et puis voilà, oui, non, j'espère bien qu'il sait qu'il est capable de gagner des courses quand même, il l'a prouvé.
En tout cas, sa dernière victoire, c'était Atlanta 1 l'an dernier.
Ouais, donc
ça fait un an. C'est ça. Il a pu gagner depuis le 19 mars 2023.
Ouais, mais.
Ah, mais quand tu t'appelles Logano.
T'es chez Penske. Ouais,
en plus. Et quand ton coéquipier a gagné. Et a gagné, voilà, a eu plusieurs courses depuis.
Ouais.
Et que lui, il a très bien débuté sa saison.
Oui, mais oui.
Oui, mais non.
Il est pas dans la meilleure. Non, mais il est pas dans la meilleure des situations possibles. Là-dessus, je rejoins complètement. Mais bon, je pense qu'il aura largement ce qu'il faut pour. Enfin, il a les armes pour se défendre, en fait. Il est pas dans une équipe inconnue. Il est dans une équipe qui a quand même une certaine force de frappe. Donc, bon, voilà.
Après, oui, non, il peut encore, bien sûr, il a largement le temps de se reprendre et d'être dans les 16. Ça, on est d'accord.
Ouais, largement, ouais. Après, bon, il partira pas en vacances avec Nemechek.
Mais là, oui, là, il est 30e au classement. Ouais. Bah, oui, il a le temps de remonter et puis d'aller chercher une victoire ou deux, quoi, largement.
Ouais. Pour moi, il a autre chose à faire que de s'occuper des qui partir en vacances et du copain qui l'a accroché ce week-end. Voilà, focus sur la course suivante. Ils bossent, ils font ce qu'il faut et ça va remonter, quoi. Enfin, j'ai envie d'y croire. Après, est-ce que je serais déçu
Oui, parce que t'es toujours déçu quand le gars ne gagne pas, mais.
Ouais, moins que lugubre. Mais
ouais, mais lugubre, un Lego et ça repart, quoi.
Un Lego et ça repart. Mais ouais, non, c'est Ouais, je pense qu'il faut, ouais, faut pas trop se préoccuper de ces choses-là. Et voilà, faut travailler sur la bagnole, préparer la prochaine course et puis voilà quoi.
Après, est-ce que la nouvelle Ford, ouais, ne lui convient pas? Et justement, plus à Blény.
Peut-être.
Il y a ça aussi, hein.
Non, on verra si la tendance se confirme, s'il
Après,
arrive à.
pour revenir sur Phoenix, il était déjà pas dans le coup, même avant son accident. Là, il était tout le temps aux alentours de la 20e place.
Ouais, bon, on verra ce week-end,
Dans
mais
tous les
bon,
cas, ça aurait pas été terrible.
j'y crois.
T'y crois? T'y crois
Ouais.
encore?
Ouais.
Ok.
À donf.
Eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si on reste à Phoenix, messieurs, qu'on parle un petit peu d'Xfinity, puisqu'il y avait la Xfinity du côté de Phoenix. Et c'est Chandler Smith, le nouveau pilote Gibbs, qui s'est imposé samedi dernier au terme d'un overtime, Lilian. Chandler Smith qui s'impose devant Jesse Love. Ça commence à faire beaucoup pour Jesse Love.
Jesse Love, ouais, depuis le début de la saison, on en parle. Voilà, il est scruté de près par tous les médias. Et ouais, donc clairement, là, c'est très, très grosse pépite hein, qui est directement passée de l'ARCA à la Xfinity, hein, pour le rappeler. Et là, ouais, c'est du très, très, voilà, c'est très, très prometteur ce qu'il nous montre. Et puis son coéquipier qui continue pareil, a très bien performé, hein. Deux premières places et là, deux fois quatrième.
Effectivement.
Donc Jesse Love et la RCR dans son ensemble, ouais, c'est du très très bon.
Et ça se traduit au championnat, hein, parce que certes Chandler Smith a pris les commandes à l'issue de Phoenix, mais il a un point d'avance sur Austin Hill. Cole Custer est troisième à 37 points, Riley Herbst est quatrième, et Jesse Love est cinquième à 48 points. Donc on a quand même deux RCR top 5. On est bien.
Et puis bon, les 48 points, c'est la panne d'essence aussi, hein. Ça a pesé.
Ah oui, mais ça c'est. Enfin, c'est le jeu, hein. Tu joues, tu
C'est
perds.
sûr.
Tu peux pas gagner à tous les coups, quoi.
C'est sûr. Après, je pense qu'il faut aussi revenir quand même sur, pour moi, le fait marquant de cette course, hein, c'est l'accident en fin d'épreuve de Justin Allgaier, à qui la victoire semblait promise. Semblait.
Ben oui, mais non.
Il a mené 52 tours, donc c'est lui. Ah non, j'allais dire, c'est lui qui a le plus mené. Non, c'est Chandler Smith, c'est
C'est Chandler Smith,
88. Mais voilà. Ah ouais, c'est ça. Ouais, 4 ou 5 tours de l'arrivée, il explose un pneu à l'arrière et puis il finit dans le mur et abandon.
ouais.
Ce qui a provoqué donc l'overtime.
Exactement. Et pour parler de Shane Van Gisbergen, parce que je sais qu'il y a des fans de
Exact.
Shane Van Gisbergen, sixième de la course. Donc ça reste encore une fois une performance, enfin un résultat solide.
Oui.
Et au championnat, il continue de grappiller. Il est 14e à 92 points du leader. Il n'y a rien d'infamant pour Shane Van Gisbergen.
Il continue à apprendre, il est là pour ça.
Exactement. Tu voulais parler de quelqu'un d'autre, Lilian? Ellie Deegan peut-être?
Il dit Yann.
Accident, 33e, merci, au revoir.
Oh, ouais, bah c'est ça, encore une fois impliqué accident dont elle n'est pas à l'origine. Mais voilà.
Mais
Et
chez
ça
eux.
fait, et ça fait, et ça finit ouais, dans les profondeurs du classement, malheureusement pour elle.
Ouais, et chez Junior Motorsports, Sam Mayer aussi, accident, 34e, merci, au revoir. Voilà. Et on passera sous silence, Lilian, le nom de la course. Hein.
Attends, j'ai plus le nom en tête, mais attends, je vais
Call811.com, everydig.everytime.200.
Oh ouais, mais ils ont des noms parfois sur les courses de truck ou de Xfinity. En cup un peu moins, ils essaient quand même de faire de quelque chose un peu plus vendeur, mais ah ouais, dans les divisions inférieures, parfois c'est terrible.
C'est moche. C'est très très moche. Mais voilà. La Xfinity qui est off ce week-end du côté de Bristol. Ce sera le retour de la truck, les camionnettes, pour le plus grand plaisir d'Adrien. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard pendant Bristol.
Ouais, après, moi, ce qui me gênait dans ce que vous disiez là sur Jesse Love, c'est qu'il a fait le saut Arca Xfinity. Et a priori, ce qui ressemble le plus à la Cup aujourd'hui, c'est les trucks. Dans les divisions inférieures. Apparemment, la Xfinity est quand même relativement différente de la Cup.
La voiture est différente de la Cup, ouais.
Du coup, Jesse Love qui semble plutôt performant en Xfinity. Le passé en Cup, je sais pas si il brille cette année, ça me semble quand même risqué. En deux saisons, il passe de l'Arca à la Cup. Enfin, il passerait. J'envisage dans mon imaginaire qu'il pourrait aller en Cup. Ça me semble quand même rapide, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Je sais pas, Ty Gibbs? Ça te va comme réponse?
Il a le même parcours, Ty Gibbs?
Bah, Ty Gibbs, il a fait un an en Xfinity.
Il
est monté en Cup et il est pas venu de la track. Hein.
Ouais, donc... mais on le vendait comme quelqu'un de le nouveau Kyle Busch ou je sais pas quoi là. Et bon, il avait le nom Gibbs donc ça aide un peu. Mais aujourd'hui, il gagne pas, il fait pas des mauvaises courses. Mais il est dans le paquet, quoi.
Ouais, mais je pense que le niveau en Cup par rapport au niveau en Xfinity est tel que... C'est compliqué d'arriver et de tout casser tout de suite. Je pense.
Bah, ça, oui, c'est à peu près sûr.
Il a quand même une courbe qui est, voilà, qui est intéressante, hein, clairement. Ouais, non, mais... cette année, ça va en play-off, hein. Thank you.
Bah, j'espère pour lui, ouais. Moi, j'aimerais bien le revoir en play-off. Ouais. Je pense que ça serait... Ce serait une belle évolution. Ouais. Mais ouais, Jesse Love, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines, là, à chaque fois vous en parlez toutes les semaines, donc bon, ça marque les esprits, mais attention à pas le catapulter trop vite dans une voiture où il se grillerait en fait.
Oui, bien sûr.
Mais... Bah, c'est ce qui arrive à l'époque chez Logano quand il est arrivé à 19 ans en Cup chez Gibbs. Hein. Il a rien fait et il a explosé en arrivant chez Penske.
Et ça n'a pas été le seul à exploser en changeant d'écurie. Quoi. Donc, on verra bien, mais ça reste quand même prometteur. Et...
Ça, je suis d'accord.
On verra bien. Hein. Faudrait aussi qu'à un moment, ils réussissent à franchir le cap psychologique de la première victoire.
Oui, bah là, c'est sa quatrième course en Xfinity. S'il gagnait les quatre, oui, là... Mais...
Non, bien sûr, mais voilà.
Faut espérer qu'il en gagne une dans la saison, là, vu comment on en parle. Sinon, je pense que les gens seront un peu déçus en fin de saison. Parce que tout de suite devant, tu te dis, bon, ça va gagner rapidement, quoi.
C'est possible. C'est fort probable. Donc voilà un petit peu pour Phoenix, messieurs. Du côté de Phoenix aussi au niveau des audiences, bien, du côté de la Fox, on a fait 4 millions 0,28 de téléspectateurs, 19% de plus que l'an dernier, on avait plafonné à 3 389 000, mais l'an dernier ça s'expliquait aussi par le fait qu'il y avait des sports universitaires en face, avec la March Madness, et les sports universitaires, c'est quand même très très populaire aux États-Unis, donc une augmentation de 19% à prendre avec les pincettes d'usage, j'ai envie de dire, les Lions.
Oui, mais bon, après, ça reste toujours encourageant pour la Fox, et puis bon, j'espère que ça peut mettre un petit peu en avant le nouveau trio qu'on a aux commentaires.
Oui.
Moi, je trouve que voilà, avec Kevin Harvick...
ça se passe bien.
Ça me plaît bien, et puis bon, on a perdu le Clint Bowyer un peu trop clown à notre goût. Hein. C'est vrai qu'il était un petit peu lourd pendant 3 heures. Mm. Je pense que ça peut contribuer également. Mm.
Et vu qu'on parle d'audience, pour l'IndyCar à Saint-Pete, NBC a fait 975 000 téléspectateurs. Donc c'est presque 300 000 de moins par rapport à l'an dernier. Il y avait 1 189 000. Et à titre de comparaison, c'est un petit peu plus que la F1 qu'a fait Lilian 950, je t'ai dit, 952
Oui, c'était ça.
quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc, et qui était sur ESPN Live. Voilà un petit peu pour le tour des audiences. Si on passe à l'actu, première info, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chris Buescher à Las Vegas, il perd une roue.
Oui.
Il perd une roue, donc sanction deux mécanos en moins. Mais l'ARFK a fait appel et a finalement annulé son appel. Pourquoi elle a fait appel? Tout simplement parce que l'appel est suspensif et ça permettait de garder l'équipe pour Phoenix avant de réintégrer du monde pour les deux courses qui arrivent, donc Bristol et Austin, et les pilotes qui. Enfin les pilotes. Non, les mécaniciens qui viendront ce seront Travis Jones et Sam Wright. Qui étaient respectivement changeur de pneus et jackman sur la numéro 60 de David Ragan au Daytona 500. Donc voilà, on a préféré se laisser du temps du côté de la RFK tout en sachant qu'on annulerait cet appel pour permettre d'avoir l'équipe au grand complet à Phoenix. Et comment? Et permettre aux autres de travailler en vue de Bristol et d'Austin. Et en actualité, cette semaine, on avait Lilian du côté de North Willsboro, des essais menés par Goodyear. Donc on n'a pas de temps officiel puisque ce sont des essais menés par Goodyear. On avait trois pilotes de Cup qui étaient William Byron, Ty Gibbs et Joey Logano. Et trois pilotes de Truck pour
Ouais, j'ai vu quelques photos passer sur les réseaux, oui.
une première à North Willsboro sur un nouvel asphalte depuis 1981.
Et si je dis pas de bêtises, il me semble que North Willsboro sera au calendrier et au calendrier de la truck, hein,
Et
c'est
oui, le calendrier de
ouais,
la
qui va
Truck
compter pour le championnat, ouais, c'est ça, hein.
la veille de
De la
la
All-Star.
All-Star.
Ouais.
Donc voilà, ça permettait à tout le monde d'avoir des infos en vue des courses, donc quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc voilà, et au niveau des pneumatiques apportées par Goodyear, donc avec différentes constructions bien évidemment, et ils avaient notamment apporté des pneus utilisés du côté de Phoenix pour avoir un référentiel connu. Donc voilà, donc Goodyear n'a évidemment pas encore communiqué sur les choix de pneus qui ont été faits pour la All-Star du mois de mai. Il y a encore quelques analyses de données à faire et quelques discussions avec les différentes équipes à avoir.
Par contre, qui dit resurfaçage dit course chiante ou.
Ben,
Tous les nouveaux tarmacs en général au début.
je voulais pas le dire, mais oui, c'est souvent le cas, donc on verra bien. Après, c'est une All-Star, on aura un nouveau tarmac, on aura un nouveau diffuseur, on n'est pas à l'abri d'une bonne course.
Ouais.
Ouais.
Ouais, je sais ce que tu vas dire, j'y crois pas moi-même en
On
le disant.
l'a senti, je pense.
C'est ça. Et il y a Logano qui disait quand même qu'après 25 tours, sur un relais de 25 tours, on perdait une seconde au tour.
Ah oui, quand même.
Donc, à voir si ça se traduira de la même façon sur la All-Star au mois de mai.
Ça veut dire qu'il y aura quand même un peu de stratégie à faire, quoi. Bon, on verra.
On verra.
Ouais, c'est qu'il y ait plusieurs lignes, quoi.
Après, ce sera un format beaucoup plus court, mais qu'une course classique.
Plusieurs lignes, c'est quand même un short track plat.
Ouais, avec un nouvel asphalte, ça va être compliqué, quoi.
Non, du bump and run sur un short track de ce type-là, oui. Plusieurs lignes, non, pas
Mais ça, tu
forcément.
rêves, Geoffroy, tu sais que ça n'existe plus.
Ben oui, mais bon, si je rêve pas à mon âge, en étant enfant, je rêverai jamais, quoi.
Je sais que tu aimerais revoir 36 degrés à Bristol, mais non.
Bah oui, aujourd'hui 36 degrés à Bristol, c'est la température en degrés Celsius, quoi, c'est tout. C'est moche, hein,
C'est moche.
mais bon, c'est comme ça. Faut vivre dans le présent. Même si c'était mieux avant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les essais Goodyear? Non, puisque de toute façon, il n'y a pas plus.
On a très peu d'infos, donc
Il
c'était pas.
n'y a pas plus d'infos que ça. On va passer à Bristol. Et avant Bristol, Lily, on peut faire un petit point sur les pronostics.
Oula,
Tu les
alors oui, les pronos.
as pas, les pronostics.
Si, 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 j'ai anticipé.
T'as anticipé, ouais, t'as anticipé.
Dans une autre vie, je les avais.
Donc.
Dans une autre vie, je les avais, mais
J'ai
c'est pas grave.
anticipé, laisse-moi le temps de les chercher.
Ouais, c'est ça.
Arrête-moi là tes conneries.
Oui, c'est bon, je les ai. Donc pour Bristol, tu as pronostiqué Eric Jones.
Évidemment.
J'ai pronostiqué Chris Buescher. Et
Ah oui.
Adrien, je voyais écrit Conrad, je voulais dire Adrien, avec sa super stratégie, Austin Cindric.
Exactement.
Arrête beau cette affaire.
Bah, hey, il peut pas faire pire qu'à Phoenix, hein.
Et donc à Phoenix, bah Geoffroy a fait un splendide
Un.
deuxième et dernier avec Austin Cindric, oui. J'ai fait 18e avec Byron et Adrien 22e avec Kate Bush.
Ouais, c'est pas pire. Hein.
Ouais. Non, mais pour l'instant, Lilian, t'es devant.
Oui, mais
Lilian,
bon, je
t'as 86 points. Adrien, t'en as 61. J'en ai 58. Tout va bien.
Eh.
Tout va bien.
Elle marche bien, la stratégie, encore?
Attends, attends, on est à 4 courses, hein. Je te rappelle que tu as déjà pris un zéro. Détends-toi.
Justement,
Détends-toi.
j'ai quasiment autant de points que Lilian avec une course en moins. Ouais.
Non, t'as
Ouais.
autant de points que moi. Non, non, t'as pas autant de points que Lilian. Faut pas déconner.
Après, voilà, là, on peut déjà comparer. Vous avez tous les deux pronostiqué Kyle Busch. Geoffroy a fait 26 avec Kyle Busch. Tu as fait 22.
C'est vrai.
Ah bah, McDowell aussi, d'ailleurs. Bah oui,
Bah oui,
forcément.
mais de toute façon, forcément, on peut tout comparer, quoi.
Bon, on verra à la fin, de toute façon.
C'est ça, ça va être.
C'est à la fin qu'on fera les comptes.
À la fin de la foire, on monte les bouses. Bristol, Lilian, ça t'inspire quoi? Sinon que ça y est, on a abandonné la terre après 3 années infructueuses de terre à Bristol.
Bah, déjà, rien que ça, c'est une bonne nouvelle.
Rien que ça,
Voilà.
juste le reste, on s'en fout.
Non, mais déjà rien que ça, voilà, on revient sur un format classique, 500 tours sur la piste en ciment. Déjà rien que ça, c'est du très bon. Alors après, oui, c'est pas le Bristol d'antan qu'on a connu, mais voilà, ça reste quand même une épreuve phare et toujours très attendue de la saison NASCAR.
C'est vrai, c'est bien vrai. Non, non, c'est. Pour le coup, t'as pas tort. Adrien, pareil, toi, l'abandon de la terre pour le retour au ciment, ça te va? Enfin, au béton?
Ah bah oui, je comprends même pas qu'on ait eu l'idée d'essayer de faire ça sur de la terre en fait. Les voitures aujourd'hui elles sont plutôt faites pour en fait donc
Ah,
ouais, ils ont mis du temps à s'en rendre compte, j'ai l'impression que c'était pas trop fait pour.
c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Donc on
Bon
aura
après
les.
ils ont essayé, hein.
Est-ce que tu as les horaires? On va y venir.
Bah les horaires ils sont sur le site donc je vais vous renvoyer sur le site
Eh ben allez.
pour retrouver les horaires, toutes celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast. Juste la course de truck, elle est dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, et sur 250 tours. Et la course de cup, elle est dimanche en début de soirée pour nous, à 20h30, pour 500 tours. Et des segments, Arnaud ne va pas du tout apprécier, puisque là,
Ah.
c'est très très carré, c'est 125, 125 et 250. Donc, il n'y a pas de surprise. Voilà un petit peu pour Bristol. On aura 36 engagés, que ce soit en cup ou en truck, donc pas de surprise, tout le monde est qualifié. C'est même pas drôle. Et Lilian, interro surprise. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu un pilote qui a gagné sa première course de cup à Bristol. Est-ce que tu te souviens du dernier? Et quand?
Si je me rappelle bien, tu avais dit 2002, Kurt Busch.
C'est ça, Kurt Busch au printemps en 2002. Est-ce que tu te souviens de l'avant-dernier? C'était en 2001, aussi au printemps.
Attends, t'avais dit Ernie Irvine, mais ça c'était encore avant.
Ah ouais, non, ça c'est là, c'était avant, puisque avant celui-ci, on avait eu donc Ernie Irvine en 90, Rusty Wallace en 86 et Dale Earnhardt en 79. Et en fait, tous les premiers vainqueurs sur la course de printemps. En 2001, un pilote de la Wood
Brothers. Pas ligne.
Non, 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 non.
Je vais dire.
Non, de la Wood Brothers dans la 21. Un pilote qui s'est par la suite illustré dans une carrière de faiseur de salto. Notamment à Daytona et Talladega. Un pilote qui est redescendu après être passé du côté de la Yetz, qui est redescendu en Xfinity, qui a fait la Junior, qui a fait la Gibbs, qui a fait la RCR, mais qui a jamais réussi à être champion.
Il a jamais réussi à être champion.
Ouais.
Et tu dis que c'est en 2000.
1. Toujours pas?
Non, le faiseur de salto.
Oui, il a fait 2-3 saltos, si je me souviens bien. À Daytona et à la Dega, je crois qu'il laisse un train, il laisse un demi-train arrière.
Oui, non, demi-train arrière, c'était Newman.
C'était Newman? Lui, il laisse un train complet?
Dans le gazon, ouais. Mais ouais, si, faiseur de salto, peut-être un Sadler, mais...
Exactement, Elliott Sadler.
Dites-nous dans les commentaires si vous l'aviez avant Lilian, quand même. Parce que j'ai failli m'endormir, hein. Moi, ouais. Je critique, mais moi, je savais pas, donc...
Non, toi, tu l'avais pas. Alors, ça... Donc...
Non, en fait, quand il a dit faiseur de salto, je l'avais. Mais je cherchais les statistiques, mais j'étais sur l'année 2000, alors je ne comprenais pas. Mais forcément, quand il a dit 2001, c'était tout de suite beaucoup plus clair.
Ben oui, l'année d'avant, 2002, c'est 2001. Quoi. Enfin, après, il y a peut-être un monde où c'est 2000. Ouais.
Mais... Donc, non, faiseur de salto.
Et on a un total de 12 pilotes, donc un tiers du peloton qui est à la recherche de sa première victoire en Cup ce week-end à Bristol. Enfin, oui, c'est ça. Sur les 36 pilotes engagés, il y en a 12 qui n'ont toujours pas gagné en Cup. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation de Bristol, messieurs.
Ouais.
Donc, rendez-vous ce week-end pour suivre les courses, pour ceux qui seront dispo. Et il y a du programme, hein, entre la truck, les 12 heures de Sebring, la Cup, ça va en occuper certains un petit moment.
Ouais, la F1, je crois qu'il n'y en a pas. Hein.
Il n'y a pas de F1, je crois qu'il y a de la moto.
L'Australie, c'est semaine prochaine.
Ouais, l'Australie, c'est semaine prochaine, je crois qu'il y a de la moto.
Il y a encore de la moto? Ah bah dis donc.
Il me semble. J'ai un doute, mais il me semble.
Et effectivement, il y en a qui vont être occupés. Hein. Il y en a qui vont...
La télé va chauffer.
Ah ouais, il y en a, la télé va chauffer. Les abonnements vont être rentabilisés.
Exactement, on va essayer de regarder l'arrivée des courses en MX5 aussi, en général c'est toujours marrant, surtout à Sebring. Ça trois de front aussi souvent.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, et ben, ce que je vous propose, messieurs, c'est d'en rester là, parce qu'on a été, bavard, on a dit tout un tas de choses.
On peut.
On va se donner rendez-vous ce week-end pour ceux qui veulent suivre les courses. S'il y en a qui ont envie de passer sur le Discord, n'hésitez pas. Et puis la semaine prochaine, donc mardi pour le débrief, on verra les sujets que l'on aborde entre Bristol et Sebring. Et puis la semaine prochaine, on reviendra sur tout ce dont on n'a pas pu parler dans Splash and Go. Et puis on fera un tour d'actualité, évidemment, comme d'habitude, dans Overtime. Donc n'hésitez pas, Adrien, à liker, à mettre des commentaires et à mettre des étoiles, c'est ça?
Des pouces, des étoiles, des tout ce que vous voulez.
Ouais, abonnez-vous.
Abonnez-vous.
Et puis bah merci à toutes et tous de nous avoir suivis, quelle que soit la plateforme. Et puis bah, rendez-vous très vite sur US Racing. Salut tout le monde.
Salut tout le monde, bye.